La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore. La prise de son assurée ce soir par Yanis Joudan. La réalisation, Daniel Finou. Autour de moi, Naël Pija, Elisabeth Franck-Dumas et Stéphane Coréard pour parler de Japan-ness, architecture et urbanisme au Japon depuis 1945 au Centre Pompidou-Metz. Au Centre Pompidou-Metz également, deuxième affiche de cette dispute, Japanorama, nouveau regard sur la création contemporaine. Enfin, nous irons au Macval pour l'exposition d'Elisabeth Ballet intitulée « Tout en 1 plus 3 ». Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le film « Argent amer » de Wang Bing, aujourd'hui dans les salles. Et à mes côtés, Aïssa Tundoy qui surveille déjà le fil Twitter « Dispute FC ». Si vous avez des commentaires, on va les faire entendre. Metz, deux fois, avec l'antenne Lorraine du Centre Pompidou ce soir. Deux expositions que je n'ai pas pu voir. Je vais donc être le premier auditeur de vos propos éclairés pour les deux discussions qui vont suivre et qui vont mettre le Japon à l'honneur. Dans une vingtaine de minutes, nous parlerons donc de Japanorama. On commence avec Japan-ness, architecture et urbanisme depuis 1945. Les commissaires en sont Frédéric Migueru et Yuki Yoshikawa. Pendant qu'on écoutait cette musique, mais on va peut-être parler quand même d'exposition et pour une fois, et c'est tant mieux, d'architecture. On ne le fait pas assez souvent, mais bon, on essaye de faire ce que l'on peut dans cette émission. Scénographie de Su Fujimoto qui permet aux visiteurs, ai-je lu, du Centre Pompidou-Metz de parcourir l'histoire de l'architecture japonaise de la destruction par la bombe atomique de Hiroshima Nagasaki en 45 jusqu'à donc aujourd'hui, parcours chronologique. Six périodes, hein, moi je me suis contenté des documents de communication encore une fois, mais je vais vous suivre à la trace, Elisabeth Franck-Dumas qui écrit tout à la main, en tout cas ce soir.
Oui.
Beaucoup de notes éparses.
Oui, beaucoup de notes éparses. J'y suis allée hier.
Donc c'est tout frais pour
c'est
vous.
C'est tout frais et en même temps peut-être, enfin j'allais dire confumé, non, pas sur Japan-ness parce que c'est vraiment une expo formidable. C'est-à-dire que si toutes les expos d'architecture étaient comme ça, on en parlerait très fréquemment. Elle se donne la tâche ambitieuse de définir ce que c'est que Japan-ness, c'est-à-dire la japanité, un terme emprunté à l'architecte Arata Isozaki. Alors, est-ce qu'on voit ce que c'est la japanité? Peut-être un peu vaguement. Il y a quand même pas mal de réalisations d'architectes japonais en France. Shigeru Ban au Centre Pompidou-Metz, évidemment. Sana au Louvre-Lens. Bientôt Tadao Ando à Paris. Mais à part ça, c'est-à-dire que l'expo nous montre à quel point on connaît mal, en fait, l'architecture japonaise. Et à quel point ce concept de japanité a été finalement extrêmement fluctuant, se réinventant constamment, notamment lié aux aléas écologiques ou économiques du pays. C'est une expo qui est hyper lisible, tout en étant extrêmement savante, assez ludique, enfin je ne sais pas si ludique est le bon terme, mais c'est-à-dire qu'on accroche extrêmement facilement. Et à quoi est-ce que ça tient ? Bah, d'abord, évidemment, à la créativité de l'architecture japonaise, on reviendra, je pense, sur les raisons à cela, mais ça tient aussi à la présence très nombreuse d'archives, archives qui, soit dit en passant, n'intéressent pas grand monde là-bas, à la fois parce qu'il n'y a pas la place de les stocker, et en même temps parce qu'il n'y a pas le...
Là-bas au Japon, vous voulez dire ?
Là-bas au Japon, pardon. Et,
pas là-bas au centre Pompidou-Metz.
Non, pardon.
D'accord, je posais la question tout d'un coup.
À la fois parce que peut-être qu'il n'y a tout simplement pas la place de les stocker, et aussi parce qu'il n'y a pas la même révérence institutionnalisée vis-à-vis de, vis-à-vis du patrimoine architectural. D'ailleurs, ils détruisent quand même assez fréquemment ce qu'ils ont construit, notamment...
Bah, ça permet peut-être justement aux architectes de travailler aussi, penser autrement.
Mais résultat, Frédéric Miguerou a fait l'acquisition, que ce soit quand il était au FRAC ou désormais au Centre Georges Pompidou, d'archives exceptionnelles. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont exceptionnelles ? Ben, d'abord parce qu'elles sont très belles. Il y a des dessins d'architectes à la mine de plomb magnifiques. Je pense notamment à Tohoku Keikaku, les plans qu'il a pu réaliser, les maquettes aussi incroyables en bois, en liège, d'une ville dans les airs, d'une ville au-dessus de l'eau, des maquettes surdimensionnées de Tanao Ando aussi. On apprend que c'est sa particularité. Et puis, ma préférée, la maquette qu'a réalisée Kazuo Sejima avant de faire partie de Sanaa, la Small House de Tokyo, la petite maison de Tokyo, entièrement en plexiglas, où les délimitations entre les espaces se font entre plexiglas transparent et plexiglas fumé. Sans parler des revues d'archi, de graphistes, des séries photos aussi. Et dernière chose, la scénographie, vous en parliez, Su Fujimoto l'a réalisée, qui sépare l'espace en six périodes. Il n'y a pas trop de texte. En fait, on est vraiment en contact immédiat avec tous ces matériaux. C'est très aéré, des murs qui vont du plus sombre au plus clair, hein, la symbolique est patente. Pour terminer par un espace aérien qui correspond très bien à l'architecture la plus contemporaine et où il y a des trouvailles comme ce mobile où sont accrochées des photos de réalisations récentes, des projections de films aussi. Il y a le long travelling d'Hiroshima Mon Amour, le long travelling urbain qui se termine par la visite du bâtiment de Kenzo Tange avec des prises de vue d'Alain René absolument exceptionnelles. Donc tout ça fait que on accroche immédiatement et on fait le parcours de manière, en tout cas ça a été mon expérience, de manière très concentrée et très studieuse, alors que les matériaux ne sont absolument pas rébarbatifs. Voilà, ceci expliquant peut-être cela. J'ai pas parlé encore de la japanité.
Oui, il faut quand même laisser un petit peu à vos camarades qui eux avaient été avant vous, ensemble peut-être. Ensemble, c'est ça, Anaël Pigeat et Stéphane Correll, qui vous avaient dit, Elisabeth, faites donc attention, ils vous voient pas dans la vraie vie. Hein. Faites donc attention à cette exposition d'architecture, car nous aimerions beaucoup en parler. Je vois que ce message est non seulement passé, mais il a été complètement approprié par Elisabeth Franck-Dumas, qui est une magnifique avocate de cette exposition. Stéphane Correa, puisque Naël Pigeat me regarde
avec
insistance.
Oui, absolument. Alors, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Elisabeth Franck-Dumas. C'est-à-dire, effectivement, cette exposition est extrêmement pédagogique pour nous qui connaissons mal l'architecture japonaise. Et en même temps, elle est constituée uniquement quasiment de dessins et de maquettes. Il y a effectivement très peu de textes. Et donc, c'est vraiment le mérite de la scénographie et du commissariat de rendre ce parcours lisible. Il va effectivement du noir pour la première salle au blanc en passant par toutes les nuances de gris. C'est un petit peu l'argument aussi de l'exposition, c'est qui est découpé certes par tranches chronologiques mais aussi thématiques à l'intérieur de cette chronologie et de montrer que on finit par le, je crois que c'est écrit dans le catalogue, quelqu'un a écrit ça, light is more. Donc on va effectivement vers la lumière, on va vers la transparence. Je peux effectivement revenir sur cette notion de japanéité ou de japanéité qui est intéressante. Il y a deux textes dans le catalogue, je trouve qu'ils ouvrent le catalogue très intéressant, un entretien avec Isozaki, entre Isozaki et Frédéric Miguerou, un des commissaires de l'exposition, et ensuite un texte théorique d'Isozaki qui est vraiment passionnant, et voilà comment il définit lui-même cette notion qu'il a forgé de Japan-ness. Il dit que la dichotomie entre l'original et la copie ne fait pas sens dans la culture japonaise, et que donc l'architecture japonaise pour lui se définit par une aptitude au changement et à l'adaptation, à la reconfiguration d'une singularité, qui est le très beau terme je trouve qu'il utilise, et l'exposition commence très précisément à ce point-là, puisque ça commence par des photographies prises par Watanabe du sanctuaire d'Ise dans les années 50. Et c'est le site Shinto le plus important du Japon. Il a la particularité d'être détruit et reconstruit tous les 20 ans à l'identique. Depuis 690 et par des suivant des règles qui ont été codifiées au Xe siècle. Et donc il y a cette idée d'éternel recommencement, comme le disait Elisabeth, c'est aussi lié évidemment notamment au tremblement de terre et récemment au au tsunami, mais c'est aussi un rapport, ça c'est très intéressant je trouve, à, effectivement à l'original, qui n'est pas du tout le même que dans la culture occidentale. Et d'ailleurs, Isozaki, de manière assez savante, mais très intéressante, raconte dans le catalogue qu'avant la guerre, ce qui justifie aussi que l'exposition commence en 1945, ces concepts de temps, d'espace ou d'architecture, d'ailleurs, n'existaient même pas dans la langue japonaise. Et pour lui, justement, la japanité se définit par le fait, notamment, que le temps et l'espace sont totalement contractés dans un seul et même mouvement. Donc, l'exposition s'ouvre sur un très grand collage, photomontage, on pourrait dire, d'Isozaki lui-même, qui est extrêmement parlant, puisque c'est ça date de 1968, ce qui est une des années charnières de l'exposition, l'autre étant 1970, je pense qu'on en parlera. Et ce très beau photomontage qui appartient au MoMA montre la vue d'Hiroshima détruite, totalement détruite, et par-dessus des sortes de ruines de l'architecture moderniste, c'est-à-dire une espèce de double faillite, de double impossibilité. Et c'est là-dessus, finalement, que l'architecture japonaise s'est construite.
Anaëlle Pija, c'est à vous la parole, il reste encore beaucoup de choses à dire.
Oui, absolument, cette exposition, mon enthousiasme est partagé avec mes deux camarades, cette exposition montre en effet des pratiques qui finalement sont assez jeunes, puisque le caractère même qui désigne l'architecture a été créé en 1910, si j'ai bien compris. Ce qui est frappant, et on le voit dans l'exposition, aussi très bien dans le catalogue, c'est que l'émergence de ce mouvement architectural japonais est en fait très liée, comme vous l'avez dit d'une certaine manière Stéphane, à la pensée de ces architectes. Et notamment, on le verra tout à l'heure, c'est une grande différence avec la création plastique, qui elle est beaucoup plus organique. Là, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de très élaboré. Donc je souscris absolument aussi à ce que vous disiez Elisabeth sur la scénographie de Tsuru Fujimoto, qui est extrêmement adroite, qui en fait est un vrai petit système dans lequel on a des cartels qui indiquent, enfin qui établit d'abord un lien très étroit entre les dessins et les maquettes, parce que très souvent quand on a une maquette on a le dessin à côté, des plans parfois, ce qui permet de lire des documents d'architecture qui sont souvent rébarbatifs dans les expositions et qui là ne le sont pas du tout. Et puis en plus il y a des petits cartels supplémentaires qui indiquent un dessin quand la chose n'a pas été réalisée, et quand l'objet a été réalisé il y a dans chaque section, disons, un diaporama qui montre les photographies in situ de ces bâtiments. Et en fait, le système se déplie formidablement, et je pense que c'est ce qui contribue à cette lisibilité. Il y a une autre chose que j'ai trouvé très réussie, que vous avez évoquée, Elisabeth, c'est ce mobile dans la dernière section contemporaine. Sur l'architecture d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont des sortes de panneaux qui pendent du plafond comme un mobile de caldaire, qui sont souples, sur lesquels sont collées des photographies de différentes constructions, en général des maisons individuelles, et on se promène en dessous, et comme avec les mouvements de l'air ces panneaux s'agitent, disons, on découvre, j'ai vraiment eu l'impression de me promener dans une rue de Tokyo et de tourner la tête, et en fait personne n'a la même visite de l'exposition en fonction de la manière dont il déambule dans cet espace. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très 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 habile. Ce que je trouve aussi vraiment intéressant dans cette exposition, c'est que certes elle parle d'architecture, mais en fait elle parle beaucoup plus on a une sorte de traversée du Japon absolument passionnante et très édifiante, qui parle du rapport à la guerre évidemment dans la première partie, et au modernisme occidental, donc des rapports du Japon avec l'Occident. Il y a par exemple le mémorial d'Hiroshima de Kenzo Tange, qui est très inspiré des idées de Le Corbusier. Elle parle aussi, cette exposition, d'une fantaisie japonaise, qui n'est pas forcément l'idée qu'on a, je trouve, du Japon. Je pense là, toute la période du métabolisme dans les années 70, qui fait suite à l'exposition d'Osaka Universal en 1970. Dans laquelle on voit par exemple la maison visage, qui est vraiment très drôle, des cheminées peintes, on voit une église en forme de moteur, on voit enfin vraiment des incongruités tout à fait étonnantes. L'exposition parle aussi d'un rapport à la philosophie japonaise, puisqu'il y a des photographies de ces interstices entre les bâtiments qui désignent le ma, donc le jeu sur le vide, sur la fissure, sur la rupture, parce qu'il y a une réglementation au Japon, on l'apprend, qui empêche la notion de mur mitoyen, c'est-à-dire qu'il y a un petit espace entre chaque bâtiment. Et puis enfin, c'est une exposition qui donne aussi à voir la présence de la nature au Japon, à travers évidemment les tremblements de terre et les photos des destructions. Voilà. Donc c'est vraiment une exposition extrêmement complète, extrêmement nourrissante et une recherche originale, ce qui est une chose précieuse et rare.
Concert de louanges, hein, vous donnez très envie d'aller à Metz, mais peut-être revenir un instant sur cette année 70, parce qu'on en reparlera aussi pour Japanorama, puisqu'il y a cette exposition universelle, mais il y a aussi une biennale d'art, qui c'est donc un moment doublement important. Vous le disiez, Stéphane Coréard, 70, date
oui,
charnière
absolument,
aussi.
70, c'est une date extrêmement charnière. C'est l'exposition universelle d'Osaka, dans laquelle il y a une utopie qui se réalise de manière fugace et peut-être incomplète de fusion de tous les arts autour de l'architecture, mais aussi de pratiques contestataires, mais qui sont peut-être pas si neuves que ça non plus, parce que c'est la fin de Gutai, par exemple, qui se termine à Osaka et qui, je crois, va se faire harakiri, si je puis me permettre cette expression, tout de suite après. Et 70,
toutes les années provoquent aussi. On pense à l'exposition qu'il y a eu au bal, qui amène vers cette année 70 aussi.
Et 70, c'est aussi le suicide de Mishima. Donc, c'est vraiment un tournant dans l'histoire du Japon. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans l'exposition Japanorama. Sur l'art, et ça l'exposition le montre très bien, et comment on bascule après cette période, c'est effectivement l'apogée, on va dire, de cette période métabolique, et ensuite on bascule dans du post-modernisme d'une certaine manière, avec Isozaki, il y a deux très belles maquettes d'Isozaki qui interviennent à ce moment-là. Ce que je voudrais juste dire pour être encore plus précis sur l'exposition, c'est que c'est quand même le fruit d'un travail remarquable de Frédéric Miguerou, effectivement au sein de deux institutions successivement, le FRAC Centre, puis le Centre Pompidou, et la plupart de ces maquettes et de ces dessins ont été donnés par les architectes. C'est un travail absolument fantastique que font certains conservateurs. C'est peut-être plus facile dans le champ de l'architecture, même si c'est pas du tout évident, que dans l'art, mais il faut quand même qu'on se rende compte de la richesse que représente pour la France le fait que le Centre Pompidou réunisse toutes ces maquettes fantastiques. Juste, je voulais juste dire par ça qu'il y a donc des maquettes emblématiques de beaucoup de grands bâtiments, des grands architectes qu'on connaît, en dehors de tout ce qu'on découvre. Et personnellement, moi j'ai un coup de cœur pour les mines de plomb sur papier de Seiichi Shirai, qui sont des merveilles d'hyper-réalisme, en même temps elle sera un petit peu dans la vapeur de la lumière, et ça montre justement ce que montre l'exposition, et c'est pourquoi les architectes japonais sont si bon et si fort, c'est que l'architecture, c'est de la lumière sculptée.
Ce qui est très beau, hein, dans ce que j'entends de vos propos, c'est cette idée aussi que vraiment c'est une aventure intellectuelle aussi, vraiment de pure pensée, Elisabeth Franck Dumas.
Alors, une aventure de pure pensée, oui, et en même temps, je trouve qu'il y a une réactivité absolument extraordinaire.
Pensée qui fuse.
Non, mais à tous les cataclysmes qui se sont déchaînés contre le Japon, et on voit qu'à chaque fois, c'est l'occasion de réinventer l'architecture, de trouver des solutions architecturales, que ça soit, bon, évidemment, le post-1945, mais après le tremblement de terre de Sendai, les formidables architectures en carton supposées être temporaires et puis qui sont restées, qui sont incroyables, de Shigeru Ban, et d'ailleurs à cette occasion, je signale qu'il a utilisé ça pour rhabiller un petit peu les espaces communs du Centre Pompidou. C'est une nouveauté et ça va, et c'est voué à rester. Ou le fait que Kazuo Sejima a inventé les maisons de village qui n'existaient pas avant les tremblements de terre. Voilà, et je trouve que cette réactivité à tout ce qui peut s'abattre sur le Japon mérite aussi d'être saluée. C'est-à-dire qu'il y a une pensée, et puis il y a ces gestes absolument ahurissants dont ils sont capables à des moments vraiment singuliers.
Anaël Pigeat, pour conclure.
Vous parliez de cette aventure intellectuelle, et je souligne vraiment cette fantaisie du Japon, de l'utopie en fait. C'est vraiment une exposition qui fait aussi rêver. Par exemple, avec la Nagakin Capsule Tower, qui est des années 70, dans laquelle les architectes ont pensé que ça pourrait être une architecture modulaire et qu'on pourrait ajouter des petites cellules. Alors aujourd'hui, la chose tombe en ruine. Mais cette esprit d'audace, en fait, existe encore aujourd'hui avec, par exemple, une maison dont les murs sont des rideaux, des maisons construites sur des minuscules parcelles de terrain, ou la maison de thé totalement stupéfiante qui est en haut de deux troncs d'arbres qui donne vraiment envie d'aller s'y installer.
Bon, et pour conclure cette première discussion, Issa Tundoy, moi je suis d'avis comme une dame sur Twitter, comme qui ?
C'est Go Paroyal qui nous dit que c'est malin, maintenant elle a très envie d'aller à Metz.
Voilà, bon. Ça c'est une première conclusion pour cette première étape consacrée à cette dispute à Japanness, architecture et urbanisme au Japon depuis 1945. Cela dit, post-scriptum, vous nous avez moins parlé d'urbanisme c'est présent aussi parce que architecture, j'ai bien entendu dans vos propos, mais la forme des villes.
Oui, il y a des plans aussi, de ville. C'est-à-dire, il y a des plans de ville qui datent des années 70, qui sont essentiellement des choses non réalisées, la ville en hélice, la ville dans les airs. Et aujourd'hui, l'urbanisme apparaît dans les interstices, me semble-t-il.
Oui, et puis alors, c'est cette découverte que je trouve très intéressante, surtout pour qui s'est toujours posé la question de mais pourquoi autant de maisons triangulaires au Japon qu'on voit dans les revues d'architecture ou que sais-je. Eh bien, c'est très simple, c'est parce que le triangle, c'est ce qui reste quand on a vendu différentes parcelles de terrain. Il reste ce petit espace, et comme il faut occuper tous les espaces, eh bien, on construit. Mais enfin, le rapport à l'urbanisme, c'est en fait un manque de rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout les mêmes réglementations qu'en France. On peut faire un peu ce qu'on veut, où on veut. C'est aussi une autre clé de la créativité de cette architecture.
Donc, cette exposition Japanness, elle est visible jusqu'au 8 janvier au centre Pompidou-Metz. C'est donc un catalogue qu'on a entendu bien fourni et complet, édité par les éditions du centre Pompidou. On va parler dans quelques instants de Japanorama et puis nous parlerons également des Elisabeth Ballet au Magval.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques, deuxième incursion donc dans le centre Pompidou-Metz, cette fois pour Japanorama. Nouveau regard sur la création contemporaine dont la commissaire est Yuko Hasegawa, qui est la directrice artistique du musée d'art contemporain de Tokyo. Alors, il s'agit avec Japanorama de repartir de cette date 1970, année donc de l'exposition universelle d'Osaka et de la 10e biennale de Tokyo, année charnière puisqu'elle ouvre une nouvelle ère au cours de laquelle les arts visuels, nous expliquons les arts visuels japonais, s'affranchissent de l'influence occidentale, forcément très présente depuis l'après-guerre. Artistes japonais qui développent, dit-on dans la présentation de l'exposition, des stratégies esthétiques liées à deux mouvances principales, le Monoa et le Nippon Gainen-a. On peut traduire un peu facilement, l'une matérialiste et l'autre conceptuelle. Et c'est Korehar-san qui va débuter ce moment de la dispute.
Alors je vous remercie Arnaud, effectivement vous avez mis le doigt finalement dans ce que vous avez déjà, les peu de choses que vous avez énoncées, sur à mon avis un peu le péché d'origine de l'exposition, c'est-à-dire que cette exposition fait suite à celle qui a eu lieu en 1986 au Centre Pompidou à Paris. Qui était consacré au Japon des avant-gardes 1910-1970. Quand j'ai fait suite, c'est que c'est vraiment tous les premiers textes du catalogue partent de là, et un peu de la crispation justement qu'a pu représenter cette exposition rétrospectivement, comme vous l'avez dit, parce que, comme le dit la commissaire d'exposition, elle passait en revue l'expression du modernisme japonais influencé par les avant-gardes occidentales, et là, son propos, son projet, est d'explorer le moment où le pays a commencé à chercher sa propre identité culturelle. Alors je ne sais pas si c'est peut-être ça le péché, de demander à une japonaise de vouloir exprimer sa propre identité. Je pense que ce qui est intéressant dans Japanness, l'exposition d'architecture, c'est peut-être justement le rapport qu'il y a entre Frédéric Miguerou, spécialiste d'architecture et occidental, qui, avec Isozaki notamment dans ce dialogue, va essayer de chercher ce qu'est la japanité. Là, je pense que ça a un petit peu manqué, à mon sens, de dialogue. Enfin, je ne sais pas ce qu'en penseront mes compères. Mais notamment, il y a beaucoup de comptes qui sont réglés dans cette exposition. Ce qui, pour moi, déjà gêne, brouille en fait la lecture, puisqu'il y a pour le coup tous les artistes japonais qu'on connaît, enfin ils sont quasiment tous là, mais à l'intérieur de l'exposition la commissaire a essayé de faire une relecture de ces œuvres-là pour nous montrer qu'on les connaissait mal ou qu'on les connaissait pas peu, etc. Alors il y a différents cas, on va dire, mais par exemple il y a des grands artistes qui sont résumés à mon avis à trop peu, comme Sugimoto avec uniquement la série des Seas, Onkawara, Liu Fan, Yoko Ono. À mon avis, on voit trop peu de choses pour rendre compte de ces singularités Et de, justement, si on veut rendre compte d'une identité, ça passe, je pense, par une addition de singularité. Et à mon avis, ces artistes-là, par exemple, sont trop vite évacués. Il y en a d'autres, par exemple, où elle prend un parti pris qui, à mon avis, est trop radical. Par exemple, Araki, dont elle montre uniquement une série en noir et blanc de photos de sa femme, etc. Si on ne connaît pas tout le travail d'Araki depuis, je pense que ça manque, à mon avis, dans le cas de l'exposition. En revanche, les stars du marché, que sont Nara, Kato, même Mariko Mori, Takano, sont largement représentés, peut-être parfois un petit peu trop, et dans certains cas très emblématiques, à mon avis, il y a carrément un risque de parasitage. C'est le cas, par exemple, de Kusama, dont elle montre des très beaux dessins des années 70, très sombres, notamment un qui s'appelle I Will Committed Suicide de 77, mais elle l'accompagne de la grande installation un peu qui du coup fait un peu gadget à côté, l'Infinity Mirror Room de 2000. C'est la même chose pour Murakami, elle montre une œuvre de Murakami de 89 qui sans doute n'avait jamais été montrée en France, en tout cas de ses séries, qui est très minimale avec des soldats collés sur un fond rouge, mais après elle montre un très très grand polyptyque, beaucoup kawaii, on va dire. Voilà, donc je trouve que ma première impression, c'est déjà que ces singularités ont du mal à s'exprimer. Mais du coup, le plus intéressant, c'est ce qu'on découvre, ce qu'on ne connaissait pas. Et il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de choses très intéressantes.
Alors, je voulais savoir ce qu'en pensaient vos compères, avez-vous dit. Il ne faut pas dire commères, j'imagine. Masculin, féminin.
Camarades, moi j'aime bien.
Oui, camarades en dispute. Annaëlle Pijat.
Je trouve que cette exposition est d'abord très ambitieuse. C'est extraordinairement difficile de faire la traversée de 40 ans de création contemporaine dans un pays aussi complexe que le Japon.
On peut dire presque 50, oui.
Presque 50, c'est vrai. Et ce à quoi s'emploie Yuko Hasegawa, il y a une chose qui m'a assez amusée, c'est une parenthèse, c'est que l'exposition d'architecture se termine sur la maquette du musée de Kanazawa, dont Yuko Hasegawa était à l'origine. Et donc, il y a comme un passage de relais comme ça dans cette grande fresque japonaise du Centre Pompidou-Metz. Mais pour revenir à Japanorama, en fait, il y a cette scénographie qui est faite par Sejima de l'agence Sana. Qui est une sorte de grand, qui dessine des grands plateaux comme ça, enfin qui dans les grands plateaux du Centre Pompidou-Metz dessine à la fois quelques espaces un peu resserrés qui font des petits enclos et des circulations ouvertes. C'est-à-dire que, en fait, elle veut montrer par là, Yuko Hasegawa, que cette création s'est développée de manière organique, à la différence de l'architecture qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple. Et donc, il y a des liens, il y a des sortes de porosité entre ces espaces qui, il faut le dire, créent parfois une sorte de confusion. En même temps, il y a des subtilités aussi dans son accrochage, évidemment, qui sont tout à fait intéressantes. Elle commence avec un grand espace sur le rapport au corps. Donc, il y a le corps de l'après-guerre, le corps qui est au bord de la mort, des danseurs de buteau. Il y a le corps post-humain des années 80 et puis 90, le corps scanné par Dumptype. Il y a le corps qui est le corps produit, en fait, de Sputniko, par exemple, ou de le corps absent, ça se termine par là, dans la grande installation de Yuko Mori, Parade, qui est une série d'instruments de musique farfelus, dépourvus de tout interprète. On passe de là à un espace sur la culture pop, puis sur une pop japonaise beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus sombre, beaucoup plus politique aussi que la pop occidentale. Donc là, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de règlement de compte avec le monde occidental dont vous parliez, Stéphane, mais en même temps on voit bien des singularités de japonaises, par exemple dans une vidéo très jolie de Tabaimo où on voit des longues vues qui se promènent sur un paysage et dans lequel on voit des scènes un peu sordides, il faut le dire. Mais tout ça est très joli. En fait, toute l'exposition vise...
Très
joli de manière très ironique, parce que toute l'exposition vise à la déconstruction de l'opposition entre le zen et le kawaii, qui sont en général les idées reçues sur le Japon, c'est-à-dire ce côté très contemplatif, et puis le kawaii, c'est-à-dire ce côté mignon, un peu séduisant. Il y a un passage intéressant sur les pratiques collaboratives qui ont fait suite à l'épisode de Fukushima. Il y a une vidéo qui, évidemment, moi, m'a beaucoup séduite qui est la promenade de la pieuvre dans Shimabuku, merci beaucoup. Shimabuku promène une pieuvre dans Tokyo, prend le train. Il y a ce rapport à la nature là aussi qui est tout à fait présent. Et puis il y a effectivement des passages qu'on connaît mieux, le passage sur la photographie. Il y a eu cette exposition au bal sur Provoke, on est plus familier de cette histoire de Moriyama, d'Araki aussi. Et le parcours se termine sur un passage sur le minimalisme et sur le zen. En gros, Monoa. Et ce qui est très beau, c'est l'échelle de la dernière pièce, qui est une immense installation, enfin une grande installation de Kohei Nawa, qui date de 2015, qui est une sorte de pluie de pétrole, enfin d'huile noire, on ne sait pas très bien ce que c'est, qui tombe de manière régulière, comme ça, qui dessine des fils dans l'espace, dont on se demande à la fois si c'est l'évocation d'un code-barre d'un monde industriel et sinistre, ou si c'est une sorte d'interprétation stylisée d'un phénomène naturel qu'on s'expliquerait mal.
Impossible. En tout cas, les images donnent très envie de la voir en vrai. Encore et toujours envie d'aller à Metz. Elisabeth Franck-Dumas, cette question de la Japan-ness, la japanéité appliquée aux arts plastiques, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Parce que si la thématique de l'exposition, ou en tout cas le principe, c'est de dire on s'est dégagé de l'art occidental, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a une japanéité des arts plastiques?
En tout cas, il y a quelque chose qui est très propre au Japon, d'après ce que j'ai pu comprendre en visitant l'expo et en lisant le catalogue, c'est cette idée de ne faire aucune différence entre ce qu'on pourrait appeler culture noble et culture populaire, culture haute et culture basse, pourrait-on dire, si bien que l'expo montre en fait des productions d'art plastique, mais également des vidéos de groupes pop, Yellow Magic Orchestra, entre autres, montre à un moment une pièce que j'ai trouvée formidable, j'y reviendrai, qui est un extrait de caméra surveillance à Fukushima, montre également des publicités, la chaîne Arco. Donc c'est vrai que ça, il me semble, alors je ne suis absolument pas spécialiste, donc je m'en réfère aux personnes qui ont organisé l'expo, ça me semble en effet très propre à la culture visuelle japonaise, et c'est ce qui fait, je pense, une des qualités de l'expo. C'est-à-dire que moi, certaines des pièces que j'ai trouvées vraiment les plus intéressantes, alors je rejoins un petit peu mes camarades, mais pas entièrement, d'ailleurs eux-mêmes n'ont pas dit la même chose. En fait, la question du panorama, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse aussi. C'est-à-dire que bon, c'est extrêmement ambitieux, vous avez raison Anaëlle de le souligner. Et finalement, qui va y trouver quoi? Alors ceux qui connaissent déjà un petit peu la culture visuelle japonaise, bon, vont se dire tiens, ils ont mis ci, ils ont pas mis ça, comme le soulignait Stéphane. Alors c'est vrai que ce qu'on ne connaît pas d'artistes qu'on connaissait déjà très bien est une révélation. Enfin, notamment vous parliez des dessins de Kusama, qui sont absolument magnifiques. La responsabilité du commissaire, à qui s'adresse cette expo? Quelle a été moi je trouve que en ce qui nous concerne, qui connaissons un petit peu, tout en restant totalement en surface, parce qu'on se rend compte quand même, la richesse de l'expo, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, et des pièces vraiment fascinantes. Si on ne connaît absolument, est-ce que vraiment le visiteur va à Japanorama, en se disant, ah, tiens, ça va être kawaii ou ça va être zen? Je ne suis pas sûre. Bon, alors dans les pièces que j'ai trouvées.
Juste une intervention de Mme Pigeat par rapport à ce que vous disiez avant de revenir sur
le choix. Ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est que c'est un travail qui n'a pas été fait au Japon, apparemment. Ce panorama. Et c'est toujours. C'est courageux, en fait, de faire ça. On se pose la question pour l'art au Japon.
Qu'est-ce qu'il y a dans le musée de Mme Yuko Asagawa?
Je rêve de savoir, mais je l'ignore.
Les arts contemporains de Tokyo, ce ne sont pas ces collections qui sont présentées là? Une partie?
Non, ce qui n'a pas été fait, c'est ce travail curatorial d'essayer de dégager la spécificité de l'art japonais. Et il y a très peu d'expositions sur l'histoire de l'art japonais.
Au Japon.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et là, il y a quand même une tentative de classement. C'est une question qui se pose aussi, par exemple, pour l'art en France. Comment on aborde un pays, parce que évidemment c'est toujours un peu tabou aussi dans l'univers des expositions.
C'est pour ça qu'il faut pas le faire dans son propre pays de toute façon. Parce que voilà. Ceux qui voudraient faire ça en France.
Oui. Et nombreux sont ceux qui s'y sont essayés.
Oui. Enfin, oui. De façon toujours très biaisée, vous avez remarqué.
penser.
C'est pour ça que je soulignais que l'autoportrait n'est pas toujours peut-être la forme appropriée. Par exemple, en littérature, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui réussissent cet exercice d'autoportrait.
Oui, là, c'est un autoportrait décalé dans l'espace, qui est assez intéressant.
Et je trouve que d'avoir dégagé ces thématiques, qui fonctionnent plus ou moins bien, selon les thématiques, a quand même fait qu'il y a des jeux d'écho qui se créent. Il y a une manière de lire les pièces les plus récentes par l'histoire de ce qui a pu se faire précédemment, qui je trouve donne du sens à des pièces qui sinon resteraient vraiment totalement opaques pour nous.
Et ce principe de porosité entre les zones, entre les espaces, que des thèmes finalement, ces thèmes sont assez larges. Le corps, le pop, le rapport à la contemplation, comme ça. Mais je trouve que le principe de la porosité entre ces zones est une idée tout à fait fonctionnelle. Parfois, c'est vrai qu'il y a un peu des œuvres dans des coins un peu bizarrement placés. Il y a des circulations qui fonctionnent plus ou moins. Et parfois, peut-être un peu une surcharge d'œuvres. Par exemple, je ne sais plus si vous avez évoqué, Stéphane, pièce d'Anne Kawara. Bon, on se demande peut-être pourquoi celle-ci. Donc, il y a des choses, évidemment, à dire. Mais je trouve que l'entreprise est quand même tout à fait intéressante.
Alors, à propos d'œuvres, vos choix.
Oui, alors, il y a des découvertes. Alors, moi, il y a le Finger Pointing Worker, qui apparemment avait énormément tourné sur Internet au Japon, que je n'avais personnellement jamais vu, et si je devais en regarder qu'une, ça serait celle-là. Il règne un grand mystère autour de la création de cette pièce, vous allez comprendre pourquoi. On voit, c'est une caméra de surveillance à Fukushima, on voit un ouvrier en combinaison étanche pointer l'index vers la caméra et ne pas bouger pendant une vingtaine de minutes, tout ça en silence. Il y a quelque chose de terrifiant, d'extrêmement culpabilisant aussi, puisqu'on prend toute la mesure de la distance qui nous sépare de ce type qui est en train de travailler dans cet endroit et voilà, alors que nous on regarde ça bien en sécurité, bien au chaud, si je pouvais dire. Il a été révélé ensuite que ce serait une performance en hommage à Vito Acconci et que ce serait peut-être l'œuvre des Chimpom. D'ailleurs, il y a des pièces géniales des Chimpom. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Une autre vidéo, mes camarades vont hurler, qui est la vidéo d'un concert de J-pop, d'un groupe de J-pop qui s'appelle Perfume. Un collectif nommé Rhizomatics font des projections d'œuvres sur elles jusqu'à ce que ces filles, elles sont trois, disparaissent totalement. Enfin, les concerts ont l'air absolument extraordinaires. D'ailleurs, je crois qu'elles sont passées à South by Southwest, voilà, tellement ça intrigue. Et donc
fait hurler ou pas?
Alors, au contraire, moi, ça ne fait absolument pas hurler, parce que ce que j'ai retenu de l'exposition, Elisabeth, Franck Dumas parlait de la haute culture et de la basse culture, mais même peut-être plus précisément que ça, c'est, je trouve, que ce que montre l'exposition, c'est que s'il y a une spécificité japonaise, c'est peut-être dans cette relation très particulière qu'il y a entre la pop culture et l'underground.
Ouais.
Et ça, vraiment, c'est présent, c'est un fil conducteur de l'exposition, c'est très fécond, et justement, je voudrais préciser qu'il y a, parallèlement à l'exposition, Emmanuel de Montgazon organise une série d'événements qui s'appelle Ten Evenings avec des artistes de l'exposition.
Soirée, quoi, si je traduis approximativement.
Oui, mais c'est dans le catalogue, partout, c'est écrit Ten Evenings.
Je plaisante.
Je respecte la langue originelle. Et donc, il y a notamment Ikeda, Morimura qui viendront faire des performances et des concerts. Et je précise aussi que Dumtai va revenir au Centre Pompidou-Metz pour faire, je crois, une exposition personnelle, avec là aussi des performances, des concerts, parce que c'est une des idées d'Emma Lavigne, la directrice du Centre Pompidou-Metz, que de tirer cette histoire japonaise qui est inscrite dans le bâtiment lui-même, puisqu'il est effectivement dû à Shigeruban, dans la programmation du Centre Pompidou-Metz.
Anaëlle, vous vouliez absolument ajouter quelque chose, vu votre regard.
Cette exposition nous parle du Japon contemporain, du Japon d'aujourd'hui, quand Koki Tanaka fait monter des gens sur un escalier de secours à une hauteur qui est comparable à la hauteur de la vague du tsunami. On apprend dans cette exposition, on se promène dans cette exposition comme on se promènerait un peu au Japon, donc c'est un vrai voyage, donc il faut y aller.
Voyage complet, Elisabeth Franck Dumas, entre architecture et art contemporain, l'immersion. Après, on peut partir au Japon, on est préparé.
Mais voilà, c'est ça, vous nous emmenez dans la porte.
Première étape, Metz. Et donc, deuxième étape, Tokyo, Kyoto et autres villes. Bon, ça donne en effet très envie. Japanorama, ça c'est le nouveau regard sur la création contemporaine. Exposition qui dure plus longtemps, allez savoir pourquoi.
Elle
dure jusqu'au 5 mars.
Complètement.
Oui, bon, ben pourquoi pas. Et un catalogue qui vient lui aussi tout juste de paraître aux éditions du Centre Pompidou, Metz.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute art plastique nous emmène au précieux MacVal, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. À 60 ans, Elisabeth Ballet bénéficie enfin d'une belle exposition à l'institution. Il ne faut donc pas bouder son plaisir de découvrir dans les grands espaces du MacVal son travail de sculpture. On va dire ça comme ça pour l'instant, on va préciser, toujours en résonance avec les lieux qui l'accueillent, jusqu'à en modifier, on va le voir, la perception rétrospective, prospective sur 1300 mètres carrés. Franck Lamy, assisté de Julien Blanpied, est le commissaire de cette exposition. Cette fois, Naël Pigeat, vous n'allez pas râler, parce que vous commencez pour parler d'Elisabeth Ballet au MacVal.
Et j'en suis bien heureuse, parce que cette exposition était une vraie découverte.
C'est pour ça, vous comprenez, l'alternance, pour amener à un endroit très précis.
Je croyais que je connaissais le travail d'Elisabeth Ballet, parce qu'on a vu des pièces comme ça, ici et là, dans Contrepoint au Louvre, montrées par Marie-Laure Bernadac. Enfin, non, au MacVal, d'ailleurs, il y a deux pièces qui sont...
Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, qui entendent pour la première fois le nom d'Elisabeth Ballet ce soir,
alors,
qu'est-ce que c'est ce travail ?
Alors, ils vont voir une exposition qui est beaucoup de choses à la fois, qui est d'abord une exposition paysage, qui est un magnifique plateau tout ouvert, dans lequel on voit sur le mur du fond une grande vidéo qui projette des mouvements d'arbres, des feuilles qui se promènent comme ça sur le mur. En fait, on apprendra que ce ne sont pas des arbres, mais les ombres des arbres sur un mur. Ils vont voir, la pièce s'appelle « Eye Shadow », qui est assez drôle. J'y reviendrai.
On Ou voit.
Si, si, si.
Non, ça dépendra de l'heure, en fait.
Bon, d'accord. En tout cas, il voit dans l'espace toutes sortes de constructions dispersées, comme ça. Il n'y a pas de cartel. Et c'est une exposition qui, en plus d'une expo paysage, devient aussi une maison mémoire. Exposition maison, au sens où on se promène dans une maison comme dans la mémoire. Elisabeth Ballet est une fervente lectrice de Frances Yates, de l'art de la mémoire. Et alors, il y a des pièces autonomes, comme ça, et puis des morceaux de maison qui se promènent. Alors, il y a des seuils. On rentre dans l'exposition par une pièce qui est une sorte de boucle qui fait le lien entre le vestibule et l'espace d'exposition, qui s'appelle BCHN. Il y a des escaliers, donc où il y a des escaliers en carton, comme ça, en carton, qui sont pliés les uns dans les autres, qui est une sorte d'escalier en boîte, aussi étrange que cela puisse paraître. Il y a des sortes de petites sculptures d'ameublement qui sont accrochées au mur. Il y a certaines d'elles qui s'appellent face à main, ce qui me fait beaucoup rire aussi. Il y a une échelle qui va au plafond, comme ça, si on veut changer une ampoule, c'est commode dans la maison de la mémoire aussi. Et puis, un peu partout, il y a une sorte, pour la transcendance, ça peut servir aussi l'échelle. En tout cas, il y a toutes sortes d'enclos qui sont dispersés dans l'espace d'exposition aussi. L'enclos, c'est un sujet essentiel pour Elisabeth Ballet. C'est un enclos métaphorique, évidemment, qui renferme en son sein des mondes imaginaires, qui renferme aussi la complexité de tout ce qu'il peut y avoir dans un mur. Donc, en fait, ce sont des espaces invisibles. Alors, il y en a un que j'ai aimé particulièrement qui s'appelle Bande à part. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Godard et de revoir cette pièce avec quelque chose d'un peu burlesque aussi. Je vous raconte, c'est une sorte d'espace fermé comme ça par des tubes d'aluminium. Et puis cet espace fermé par des tubes d'aluminium débouche sur un autre espace fermé par des parpaings. Il y a quelque chose de complètement incongru dans cette construction et qui rappelle, je ne sais pas, les tests qu'on fait faire à des enfants en dessin, des tests psychologiques, mais qui en même temps raconte, à mon avis, toute la complexité de l'existence, enfin évoque toute la complexité de l'existence. Alors le catalogue est aussi un enclos, l'exposition est un enclos parce qu'il y a le rapport au dehors. Évidemment, ça met le doigt sur la question de la séparation et de la frontière. Et puis, Il y a aussi quelque chose de très cinématographique dans ce film, mais je laisse mes camarades
dans ce film, dans cette exposition. Voilà, mais vous reviendrez, vous reprendrez la parole après ce brillant exposé. Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait, Elisabeth Franck-Dumas ?
Ah, justement, je trouve que c'est une expo qui fait, qui agit sur nous et qui agit sur la manière dont on éprouve l'espace, le corps dans l'espace. C'est-à-dire que pour moi aussi, c'est une découverte. Et alors, j'en ai une appréhension toute personnelle qui n'est pas du tout celle d'Anaël Pigeat. Et alors, moi, vous allez hurler encore une fois.
Mais personne ne hurle. Quand vous dites ça, généralement.
C'est là. Non, en fait, si. Là, c'est la parenté avec, quand même, certains minimalistes américains. Il y a des clins d'œil évidents.
Oui, bien sûr. Voyez, on répond, bien sûr.
Il y a des clins d'œil évidents. Et je pense, alors, est-ce que l'intention était, justement, d'œuvrer sur notre rapport à l'espace, sur la manière dont les visiteurs peuvent éprouver physiquement ces pièges ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça agit sur moi. Il y a même quand on rentre tout de suite, il y a des petites pièces accrochées au mur de la série Face à main, ou alors un énorme parallépipède assez massif avec des lignes comme ça qui est en fait inspiré d'une hotte, mais bon, là encore, on pense à Judd, des boîtes en carton aux lignes droites géométriques. Alors évidemment, c'est pas la même chose, sinon ça serait pas intéressant. Et le sentiment qu'on a en les regardant, c'est que c'est un tout petit peu décalé, un tout petit peu pivoté, pas tout à fait pareil, plus artisanal aussi. Il y a matière qui est un angle droit, qui est accroché au coin d'un mur au lieu d'être accroché justement dans l'angle droit, qui est pas tout à fait droit. Alors, on commence à se sentir un peu de guingois. C'est plus artisanal, c'est presque un peu impur, des empilements de boîtes blanches en carton, des surfaces peintes d'un côté et pas de l'autre. Alors, ça fait qu'on, évidemment, on les regarde pas de la même manière. Des œuvres plus fragiles, il y a Wool and Water, des cartons marrons empilés les uns sur les autres qui forment une immense structure. À l'intérieur, on voit des marches, alors on se projette mentalement, même si on sait qu'évidemment, si on marchait dessus, tout s'effondrerait. Il y a une fragilité comme ça, on se sent gentiment malmené, je trouve, dans l'expo. Alors, elle-même utilise sur le petit dépliant qui est distribué l'expression pièce d'un billard électrique. Et c'est vrai que je me suis parfois senti un petit peu comme une boule de flipper, hop, envoyée d'un côté à un autre, avec les coins des œuvres qui m'entrouvaient dans les côtes. Ou alors l'idée que cette énorme palépipette dont je parlais, la hotte de cuisine, va me tomber sur la tête quand je rentre en dessous. C'est pas une expo qui est menaçante, c'est pas une expo non plus qui est pleine d'humour, peut-être que je la décris mal, parce qu'il y a pas mal de pièces qui sont assez amusantes. Il y a Jeanne, cet encadrement géométrique très minimal, on pourrait presque croire du sandbag, mais il y a fondu dedans une énorme passoire. Il y a pas mal de choses drôles, mais il faudrait pas limiter l'expo à ça. Mais je trouve qu'il y a un décadrage des œuvres par rapport à des choses qu'on connaît déjà, qui donne un sentiment assez subtil, une manière différente d'éprouver l'espace qui m'a bien plu.
C'est une personne évidemment très singulière, enfin une artiste, je ne connais pas la personne, Elisabeth Ballet, mais avec une singularité qu'elle travaille dans la discrétion. C'est pour ça que vraiment cette exposition est une forme d'événement pour quelqu'un d'aussi discret, qui n'est vraiment pas très présente dans le paysage, Stéphane Correa.
Absolument, je suis très heureux d'entendre mes commères parler de l'exposition.
Parce que,
personnellement, je ne l'ai pas vue. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je suis allé la visiter, mais je dirais
j'ai pas marché dans votre effet.
Je ne l'ai pas vu. Non, mais je ne l'ai pas vu dans le sens où Carlos Castaneda dit de Don Juan à Don. Enfin, Don Juan lui dit à chaque fois que tu regardes une chose, tu ne la vois pas. Je n'ai jamais pu m'abstraire de cette position du regardeur, justement. Donc, je n'ai vraiment pas vu l'exposition. Je ne suis pas rentré dans l'exposition. C'est en même temps un peu peut-être le pari. Cette exposition est un pari, c'est-à-dire que tout le dispositif de départ nous dit que c'est impossible de faire une rétrospective effectivement d'Elisabeth Ballet. Là, on rejoint votre ami Daniel Buren et ses obsessions, dans le sens où elle travaille toujours par rapport au lieu, avec ses contraintes et ses spécificités. Mais là, le commissaire, Franck Lamy, et l'artiste ont choisi de faire totalement abstraction de cette histoire et de ce qui a finalement présidé à la naissance de ces œuvres. C'est donc une exposition hors sol. Elisabeth Ballet dit dans le catalogue, d'ailleurs, nous nous sommes concentrés sur des sculptures détachées de leur contexte de réalisation. Et Franck Lamy rajoute de manière assez légère, ce sont des œuvres autonomes posées là, comme nonchalamment disposées dans un arrangement dandy. Ce qui est son terme. Effectivement, il y a 1300 mètres carrés d'un grand plateau. C'est très lounge comme ça. De ce point de vue-là, c'est assez agréable de déambuler dans une esthétique qui est quand même industrielle. On l'a peut-être compris, notamment Anaël Pigeat a parlé de maison, parce que effectivement, toutes ces œuvres sont faites avec des matériaux industriels qui sont quasiment tous issus du domaine de la construction. Donc c'est peut-être un écho là aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de psychanalyse qui était convoquée pour parler du travail d'Elisabeth Ballet.
Ah, ça qui vous plaît
pas. Non, pas du tout. C'est peut-être un écho au contraire au fait cette réalité primordial qui est que la pratique de l'art, c'est la construction de soi. Donc peut-être que c'est ça qu'elle nous raconte aussi dans la maison qu'a visitée Anaël Pijat, cette maison témoin où je suis resté un peu sur le seuil. Il y a beaucoup de matériaux composites aussi qui sont des matériaux de l'époque technologique, du béton cellulaire, du MDF, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal personnellement à opérer cette relecture de l'œuvre d'Elisabeth Vallet que peut-être je connaissais parce que c'est ma jeunesse à moi. C'est quand même une artiste qui est complètement ancrée dans cette histoire de la sculpture en France dans les années 90, qui est issue justement d'artistes comme Daniel Buren ou Bertrand Lavier. Et dans cette génération, on trouve aussi Basile Bustamante, on trouve aussi Wilmuth, on trouve des artistes comme Jacques Vieille, etc., qui ont tous fini par faire du 1% et des ronds-points d'autoroute, comme si c'était justement un petit peu leur destin de
comme
constructeur.
Vous y allez.
Mais en plus, j'ai plutôt du respect. Le catalogue est formidable. Elle a une dream team d'écrivains et de critiques d'art. On a tous, que j'aime tous individuellement. Donc j'ai vraiment envie d'aimer cette exposition. Mais je reste, disons, sur le seuil parce que c'est, pour moi, l'artefact est trop c'est poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que ce que je regrette, personnellement, parce que je connais son travail, je l'ai déjà vu situé, justement. Alors, le catalogue s'ouvre, d'ailleurs, fort opportunément, sur des textes qu'elle écrit, elle, a posteriori, sur ses œuvres. Et donc, à l'origine de chaque œuvre, il y a une histoire très personnelle qui convoque à la fois sa biographie, le lieu, etc. Et c'était un peu, pour moi, justement, le pari de l'exposition, c'était de voir si toutes ces histoires s'entrechoquaient, racontaient une nouvelle histoire. Et c'est là où, moi, j'ai pas marché.
Et la Bertrand Dumas ?
Moi, j'avoue que je m'en suis dégagée assez rapidement, en fait, parce que finalement, je voulais rester sur mon impression de toutes ces pièces et qui ne rejoignaient pas forcément les intentions originelles. C'est intéressant que Stéphane Correa dise qu'il est resté en dehors de la maison, parce que justement, c'est aussi, il y a un certain nombre de pièces qui jouent vraiment avec cette idée-là.
D'extériorité,
avec cette idée qu'on
ne
va pas rentrer dedans. Alors, il y aurait de manière très évidente, comme ces grandes pièces circulaires, un rectangle dont on a arrondi les deux extrémités, en plexiglas, je crois, vert, et dont on voit à l'intérieur un petit personnage, les petits personnages qui figurent les sorties de secours, qui semblent courir. Bon, eh bien, on ne rentrera jamais là-dedans, on ne sera jamais avec le petit personnage. D'autres, de manière un petit peu plus subtile, la pièce qui s'appelle Fabrique, qui est une sculpture faite de boîtes en bois qui s'emboîtent les unes à l'intérieur des autres de manière de plus en plus resserrée. Et là aussi, je trouve que c'est très fort finalement d'arriver à provoquer cette sensation qu'on est complètement à l'extérieur. On regarde et on se dit, tiens, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ?
Anaël Pijat.
Oui, c'est effectivement exactement là-dessus qu'elle joue, Elisabeth Ballet. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin, que l'exposition était extraordinairement enveloppante et invitait vraiment à rentrer dedans. Et alors, c'est pour ça que moi, je suis vraiment rentrée dedans. Aussi par ce rapport au son. Quand on se place sous la hotte, par exemple, dont vous parliez, Elisabeth, il y a le rapport au son, enfin, la perception sonore que l'on a de l'espace d'exposition se trouve complètement modifiée. Il y a une grande pièce sonore aussi qui est à peu près au milieu de l'espace que l'on peut traverser avec des haut-parleurs qui diffusent les sons cueillis dans une usine, dans et à côté d'une usine en Ardèche. Il y a tout un rapport. En fait, j'ai eu l'impression de rentrer... Il y a évidemment ce rapport formel aux œuvres et ce lien avec le minimalisme dont vous parliez, mais j'ai aussi eu l'impression de rentrer dans un film déconstruit. Alors, on a les décors, on a les sous-titres avec des œuvres, des mots en néon qui font une sorte de calembour. « Lazy days », les jours paresseux, « les idées ». En français, il y a une sorte de narration qu'on peut imaginer. Alors là, c'est peut-être la boule de Flipper qui est le personnage principal, effectivement. Mais il y a aussi
votre
un humain.
Côté Corinne Charby, ça.
C'est ça.
Il y a aussi un humain dans l'exposition qui est un perchman, une grande sculpture qui est en quelque sorte le ciment de toute l'exposition et qui remet tous les morceaux ensemble.
Bon, le catalogue. Oh non, mais ça vous fait rire, Corinne Charby. Non, mais il y a quelque chose. Une jolie fille, Corinne Charby. Faut pas mal le prendre. Finalement, c'est vous qu'on fait hurler ce soir, Elisabeth Franck Dumas.
Vous m'avez entendu hurler ?
Non, mais c'était très, très intérieur.
Ah,
très, très japanesque comme hurlement. Bon, et le catalogue, oui, quand même précisé, vous êtes plongé aussi, assez formidable, ouais. Hein, ce catalogue
de l'exposition d'Elisabeth. C'est un petit enclos à lui-même, le catalogue.
Un petit enclos en lui-même. Bon, vous recommandez le catalogue, Stéphane Correa, parce qu'il y a vraiment de très grandes plumes qui s'y succèdent.
Je vous le confirme.
Bon, bah, c'est pas mal, déjà. Tout en un plus trois. C'est le titre de l'exposition d'Elisabeth Ballet, qui est visible jusqu'au 25 février au Macval. Le catalogue donc disponible également aux éditions Macval. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, on va commencer par faire un rappel de la question d'hier au soir pour connaître enfin la réponse. Et comme chaque soir, c'est Grégoire Di Fiore qui est porteur de questions et de réponses.
Dans son spectacle 887, Robert Lepage récite un poème de Michel Lalonde dont le titre est aussi une injure canadienne. Quel est ce titre? Et la réponse était « Speak White ».
Voilà pour la réponse. Maintenant, la question du jeu de ce soir. Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour le film Argent amer de Wang Bing, qui est sorti aujourd'hui. On en parlera bien sûr vendredi soir dans la dispute cinéma. Je rappelle d'ailleurs qu'on vous attend toujours le vendredi soir au bar Le Bel Air, à la maison de la radio. Question pour se faire gagner ses places, Grégoire.
Dans quel désert, filmé par le réalisateur chinois, des opposants au régime maoïste étaient envoyés?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr, en passant, vous vous abonnez au podcast de l'émission. Préparez vos commentaires qui seront plus fournis demain, espérons-le, pour l'émission littérature. Vous les préparez, vous les postez sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant ou vous attendez le direct. Et là, vous allez sur le compte Twitter Dispute FC pour participer à cette discussion consacrée à la littérature demain en compagnie d'Elisabeth Philippe, Laurent Nunez et Philippe Chevillé. Nous parlerons de L'éducation de Jésus de John Maxwell Coetzee, de Sigma de Julia Deck et de Défense de Prosper Brouillon d'Éric Chevillard.